Ce sera un autre passage ce matin au jardin japonais. Nous avons lu Jean, le récit de Jean. Sylvain nous a lu le récit de Luc. Donc on peut compléter avec le récit de Matthieu. Et j'aimerais reprendre en verset 8, c'est juste après les événements qu'on a trouvé en Luc, dans la lecture de Sylvain. Après que les anges annoncent aux femmes que le tombeau est vide. Matthieu chapitre 28, verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant : Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà le récit de la résurrection de Matthieu. Mais dans l'évangile de Matthieu, le dernier sentiment, le dernier état dans lequel on trouve des disciples, en tout cas quelques-uns, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas la louange, ce n'est pas la joie, c'est quoi ? C'est le doute. Cela peut nous sembler décevant. Cela peut sembler même gênant comme conclusion. On n'est pas là ce matin pour cultiver de tels sentiments. Mais c'est ainsi que Matthieu décrit les disciples. Et c'est la dernière fois qu'il en parlera. Après, Jésus va leur donner une mission. Mais dernière remarque sur les disciples. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, est-ce que c'est une conclusion décevante, gênante ? Non, je dirais que c'est plutôt pour notre bien qu'il a mis cela. Vous savez, quand Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand ils ont écrit leurs évangiles, leur biographie de la vie de Jésus, c'était pas pour inculquer le doute, c'était pour amener les gens à la foi. Ils allaient devenir des évangélistes, ils allaient obéir à cette mission de faire des disciples de toutes les nations. Et ils vont écrire leur récit, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils n'ont pas écrit le lendemain de la résurrection, ils les ont écrits un peu plus tard. Par exemple, Matthieu a été écrit à peu près une trentaine d'années après ces événements ici. C'est pour ça qu'il dit en verset 15, par exemple, le bruit s'est répandu jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est dans les années 60, une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc Matthieu et les autres apôtres, les autres disciples, les autres évangélistes, ils commencent à connaître les réponses que les gens peuvent avoir face au message de Jésus-Christ, face à la personne de Jésus-Christ, ce message de la résurrection. Ils commencent à connaître les différentes réponses, y compris cette réponse assez connue, hein, même en France, qu'est le doute, la hésitation, l'incrédulité. Mais s'ils ont remarqué cette réaction assez souvent, c'est qu'eux-mêmes, ils pouvaient comprendre cette réaction. Il me semble que pour aider les gens, pour nous aider, ils ont inclus cette franchise dans leur récit, ils ont inclus cet aveu, cette difficulté, que même là, quelques-uns eurent des doutes. Et j'aimerais parler de ça ce matin. La semaine dernière, nous avons parlé des sentiments d'infériorité qui peuvent paralyser notre vie. Ce matin, j'aimerais parler des sentiments de doute, des sentiments de doute qui peuvent aussi embêtés, gênés, nous poser problèmes qui nous reviennent parfois plus souvent qu'on l'aime réadmettre. Mais pas que justement, pas que le message de résurrection, c'est pour c'est pour ces gens-là. Que faire avec nos doutes ce matin? Ce passage va nous aider tout d'abord à les avouer, ensuite à les comprendre et enfin à les surmonter. On va les avouer, on va les comprendre et on va les surmonter ensemble. Tout d'abord, les avouer, nos doutes. C'est ce que Matthieu fait ici, en parlant des disciples. Il montre ses disciples, il parle des 11 disciples qui allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mais il mentionne que quelques-uns eurent des doutes, parmi les 11, peut-être aussi parmi le groupe plus élargi. En tout cas, si Matthieu inventait son histoire, il n'aurait jamais mis une telle chose, un tel aveu. Ce n'est pas très glorieux pour les disciples de leur montrer dans un tel état. Mais il me semble que son aveu est déjà une preuve qu'il se soucie de la vérité, il se soucie de raconter ce qui s'est vraiment passé. Et ce n'est pas non plus la première fois dans son évangile qu'il montre que les disciples avaient du mal. Du mal avec ce personnage, cette personne Jésus qui était tellement différent. Il y a au moins 4 ou 5 fois, j'ai compté dans son évangile, où Matthieu montre, il avoue que, parce que lui-même fait partie des disciples, il fait partie des 11, lui-même, donc il avoue que les disciples, ils sont traités souvent par le Seigneur comme des gens de peu de foi. Il va montrer que Jean-Baptiste lui-même semble avoir eu un moment de doute par rapport à l'identité de Jésus-Christ. Et il va envoyer à Jésus cette question, mais après tout, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Bien sûr, c'est juste après que Jésus, malgré cette question, malgré ses doutes, juste après, Jésus va dire concernant Jean-Baptiste que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, quelque part, plusieurs ont été prêts à avouer leurs doutes. Ne pouvons pas nous faire pareil. Toute personne, tout chrétien a traversé des moments de doute. Abraham, il est appelé le père des croyants, l'exemple de foi. Et le bilan que fait le Nouveau Testament sur sa vie, en effet, c'est de dire qu'il ne douta point. Toutes ces années, il ne douta point, mais il fut fortifié par la foi au sujet de la promesse de Dieu. Donc oui, c'est Abraham, et quand on regarde un peu plus près de sa vie, on trouve des moments de doute, des questionnements. Les psaumes, quand on commence à lire les psaumes, souvent avant de terminer sur une note de louange ou de reconnaissance, le psalmiste, bien des psalmistes expriment un doute, un questionnement, un vécu difficile où ils ne trouvent pas la réponse tout de suite. Qui n'a pas douté de la présence de Dieu, qui n'a pas douté de son amour, de sa bonté en traversant certaines circonstances? Est-ce qu'il vous est arrivé dans la vie, de réfléchir un peu, de dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? La plupart de nos semblables sont plutôt au lit ce matin. Est-ce qu'ils font le meilleur choix? Et puis on prie, et parfois nos prières ne semblent pas exaucées. Quelques-uns eurent des doutes, oui. Ça n'aide pas, bien sûr, le scepticisme ambiant de nos jours, notre pays, notre société en particulier. Le monde nous remet en question parfois. Parfois, eux, ils ont une réflexion plus avancée que la nôtre sur certaines questions. On peut même nous poser une question honnête, une question normale, et on n'a pas vraiment la bonne réponse. Quelques-uns eurent des doutes. Je pense que nous sommes comme cet homme dans l'évangile de Marc, très intéressant. Il vient avec cet aveu, il vient au Seigneur, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et il semble que Jésus agrée cette attitude-là, parce qu'il guérit son fils. Et on est plutôt encouragé de vivre comme cet homme. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ne devons-nous pas avouer que notre foi est souvent mélangée, pas entièrement pure? Vous savez, l'or, la Bible compare la foi à l'or, quelque chose de précieux. C'est un trésor que d'avoir la foi. Mais comme l'or est rarement à 100% raffiné, pur, de l'or pur, souvent mélangé. Ce n'est d'ailleurs que le trésor public au Canada qui arrive encore aujourd'hui à pousser le raffinement jusqu'à 99,9% pour avoir l'or presque pur. Mais justement, pour ça, il y a tout un secret, il y a tout un processus pour le raffiner, pour le purifier. Telle est notre foi, non? Et les épreuves, les questionnements peuvent venir aussi pour purifier, pour raffiner notre foi. Quelqu'un a dit, une foi sans des doutes est comme un corps sans des anticorps. Les anticorps, ils sont là, ils sont développés quand il y a des virus, des maladies qui viennent, et le corps, il s'immunise. Il y a des anticorps, ils deviennent de plus en plus forts avec la présence de ces virus. Et c'est un peu comme ça, les doutes qui peuvent arriver dans la vie chrétienne. Au lieu de paniquer chaque fois, un chrétien qui pourrait peut-être revoir les doutes, un chrétien qui n'a jamais confronté, qui n'a pas avoué certains doutes qu'il a pu avoir, qui n'avait jamais lutté avec des questions, des réelles questions sur la vie, sur les propos tellement radicaux de la Bible, il risque d'être un chrétien faible. Oui, avouer ses doutes, comme les disciples ont été prêts à faire, mais bien sûr, la Bible ne s'arrête pas là. Les philosophes français, ils en ont fait du doute, presque une qualité héroïque, mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle nous encourage à avouer les doutes, mais il ne s'agit pas de les justifier, de les excuser, mais d'aller plus loin. Il y avait cette foi où Pierre lui-même, un peu comme les autres disciples, il a aussi eu un moment de doute et Jésus l'a gentiment reproché. Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et je retiens cette question pour nous aussi ce matin. On a avoué nos doutes maintenant. Il s'agit de les comprendre. Pourquoi as-tu douté? J'aime bien ce récit parce qu'on a plusieurs groupes qui ont réagi chacun un peu à leur manière face à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plusieurs groupes de personnes dans ce récit. Il y a les femmes, tout d'abord, les femmes qui ont été au tombeau, qui ont rencontré Jésus, qui sont parties annoncer la nouvelle aux disciples. Il y a ensuite les principaux sacrificateurs. Ils ont tenu conseil pour savoir gérer la situation. Après, il y avait les soldats romains, eux qui ont vécu toute une expérience propre à eux et qui ont eu la réaction qu'ils ont eue. Après, il y a un autre groupe, ce sont les juifs du verset 15 qui, voilà, dans la suite du temps, ont plutôt cru aux faux témoignages des soldats romains. Il y avait les disciples dubiteux qu'on trouve en verset 17, et puis il y a les disciples qui adorent, qui croient. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de réactions, sachant que toutes ces personnes ont été présentées avec les mêmes données, le même tombeau vide, le corps absent, et chacun a réagi différemment, allant de l'incrédulité nette, le doute extrême, jusqu'à la foi ferme, l'adoration, tout le contraire du doute. Je me dis que ces réactions différentes méritent d'être creusées. Pourquoi? Pourquoi différentes réactions? Est-ce que c'était parce que les uns étaient plus religieux que les autres? Pas vraiment, parce que finalement, ceux qui ont cru le moins, c'était les plus religieux. Est-ce que les uns étaient je ne sais pas, dans leur caractère, dans leur personnalité, est-ce qu'ils étaient plus portés vers la foi, vers les choses spirituelles, et que les autres qui n'ont pas cru étaient plus portés vers la raison, vers la logique? Ah, je ne pense pas qu'on peut conclure ainsi. Est-ce que les uns avaient des personnalités cartésiennes, modernes, et que les autres avaient plutôt personnalités, je ne sais pas, sentimentales? Pourquoi différentes choses? Non, vous voyez bien que si on veut creuser un peu les doutes, si on veut comprendre les différentes réactions, on peut regarder plus loin, il faut regarder derrière les doutes. Si Jésus a posé cette question un jour, pourquoi as-tu douté? Je l'aime bien finalement, et on va la poser à chacun de ces groupes, puis on sera prêt à se le poser à nous aussi. Si on avait les principaux sacrificateurs, on leur pose la question, mais pourquoi avez-vous douté? Pourquoi eux, ils n'ont pas cru? Eh bien, ce n'était pas suite à une réflexion neutre. Vous voyez bien la raison pour laquelle eux, ils n'ont pas cru, c'est parce qu'ils avaient, eux, déjà un a priori, ils avaient déjà décidé que Jésus, il ne pouvait pas être le Messie, parce que d'abord, cela menaçait leur position. Et puis, de toute façon, pour eux, le Messie, il ne peut pas se présenter comme ça, il ne peut pas ressembler à ça, ce n'est pas possible. Mais est-ce que ce doute, est-ce que leur réflexion, est-ce que ça reposait sur une réflexion neutre? Est-ce qu'ils ont prouvé ça, leurs idées concernant le Messie, dans un laboratoire? Eh bien, bien sûr que non. Leurs idées étaient, on va dire, un peu conditionnées par certaines croyances, par leur position et par certaines croyances du judaïsme de leur époque, qui a fait que, voilà, ils n'ont pas voulu croire. Pourquoi les soldats romains n'ont-ils pas accepté la résurrection? Est-ce que eux, c'était suite à un examen d'épreuve, une réflexion neutre? Eh bien, non plus. Il y avait quand même un intérêt personnel dans tout ça et ils avaient peur. Il y avait une question d'argent qui est entrée en jeu et tout ça. Donc, eux aussi, ils avaient quelque part une motivation derrière leur réaction, derrière leur doute. Pourquoi les doutes des disciples? Quelques-uns qui eurent les doutes, pourquoi leurs doutes? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas les preuves en main? Est-ce qu'ils n'avaient pas les preuves matérielles? Je dirais que pour eux, surtout pour eux, les preuves matérielles étaient plutôt là. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour montrer que physiquement, matériellement, les preuves sont là. Il leur a tout montré, il a passé du temps avec eux, il a tout fait. Mais ils ont eu des doutes. Malgré le fait qu'ils le virent, qu'ils l'avaient devant ses yeux, ils ont eu des doutes. Pourquoi? D'où viennent ces doutes-là? Eh bien, certainement parce que dans leur esprit, comme dans l'esprit de beaucoup, de toute manière, quoi qu'on voit, une chose est sûre, une vérité est certaine, c'est que les gens qui sont morts, eh bien, ça ne revient pas. Mais d'où vient cette conception de la réalité? Qui dit? Qui a prouvé cela? Bien, si on creuse un peu, on voit que cette conception, elle vient aussi des croyances qu'on se donne. Elle vient d'un, on va dire, un choix religieux qu'on s'est déjà fait a priori. Vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend quand on commence à creuser les doutes des uns des autres? Et on apprend que derrière le doute, il y a toujours un pas de foi. Il y a toujours d'autres priorités, d'autres préjugés, d'autres croyances qui entrent en jeu pour affecter notre réaction au fait, notre réaction notamment à la résurrection de Jésus-Christ. Personne n'était neutre dans tout ça, personne n'a examiné les faits de manière neutre. Aujourd'hui, on prend même une simple question sur l'existence de Dieu, ou comme ce matin, la résurrection de Jésus-Christ. On dit, il y a ceux qui croient, et puis ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui ont la foi, et puis ceux qui s'appuient plutôt sur la raison. Mais ce n'est pas si simple que ça, comme vous savez. Rares sont ceux qui sont arrivés à leur conclusion par une recherche objective, une recherche neutre, une recherche raisonnable, un examen des preuves. Non, il y a déjà dans le cœur des choses qui sont en train de passer, il y a déjà des croyances. On va écarter telle croyance étant déjà convaincu par une autre, parce que c'est il y a un intérêt personnel, ou il y a une culture derrière, ou il y a une motivation. Et c'est intéressant quand on commence à voir nos doutes ainsi. Les doutes par rapport à ce que Dieu dit, finalement, c'est des croyances et un pas de foi dans une autre direction. Quand on doute de Dieu, c'est qu'on croit à une autre version. Donc c'est un pas de foi. Et j'aime bien ce que disait un pasteur. On a vu qu'il faut avouer les doutes, mais on a aussi vu qu'il faut les comprendre davantage. Et il dit, si les croyants peuvent avouer les doutes au sein de leur foi, les non-croyants devraient avouer la foi au sein de leurs doutes. Les chrétiens, quand on creuse notre foi, parfois on trouve des doutes, mais les non-croyants, les athées, quand on creuse leurs doutes, on trouve beaucoup de foi. Alors pourquoi ne pas se méfier de nos doutes aussi? Pourquoi ne pas douter les doutes, douter de nos doutes? Et se dire sur quoi se basent mes doutes finalement? Sont-ils basés sur une source plus fiable que sur la foi des chrétiens? Et même le chrétien, il est en mesure de poser ça quand il est assailli par le doute. Peut-être il peut se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de croire vraiment? Sur quoi sont basés mes doutes? Est-ce que mes doutes sont basés sur mes sentiments fluctuants? Est-ce que c'est plus fiable de baser ma vie sur mes sentiments fluctuants ou sur la Bible? Quand même, ça fait des siècles qu'elle dure. Est-ce que mes idées, est-ce que basées sur les idées de ma génération, est-ce que c'est plus fiable que les baser sur les idées de, je sais pas, d'une autre génération ou ce qu'on nous raconte dans la Bible qui date de 2000 ans? Est-ce que mes pensées sont plus fiables quand je suis dans un état fatigué, déprimé, ou quand je suis dans un état normal? Beaucoup vont baser des décisions, des choses sur, on va dire, l'état dans lequel ils se trouvent quand ils sont plutôt fatigués ou déprimés. Alors, creusant un peu les doutes et voir sur quoi on les base. On peut avouer nos doutes, on peut les comprendre, et puis il faut les surmonter. Ici, et on connaît la suite de l'histoire, les disciples, ceux qui ont eu des doutes, ils ont pu les surmonter. Parce que pour tout ce qui voulait des preuves, Jésus en a donné. Même le verset 17, on ne sait pas combien de temps a duré ces doutes. Est-ce que c'était juste le temps qu'il vraiment puisse entendre parler Jésus-Christ dans les versets suivants? En tout cas, comme les anges ont dit aux femmes, venez et voyez. C'était un peu l'appel à tout le monde ce jour-là. Venez et voyez, venez et voyez. Il y a Thomas. Thomas, vous connaissez encore cette... peut-être, on pense un peu à des gens comme lui quand on parle de si quelques-uns eurent des doutes. Parce que lui, effectivement, il a eu des doutes. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a proposé à Thomas? Avance ton doigt, regarde, avance ta main. C'est-à-dire, Jésus a donné ce qu'il fallait pour surmonter les doutes. Actes chapitre 1, verset 3 dit que il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il leur donnait des preuves. Et à la fin de ces 40 jours, c'est sûr, il ne restait plus de doute. D'ailleurs, on a remarqué un peu une des preuves impressionnantes, formidables, quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, c'est de voir la variété, le caractère des apparitions du Seigneur ressuscité. Quand il a étudié un peu la chose, il a retrouvé tout ça, il a remarqué que Jésus, il a apparu à des hommes et à des femmes. Il a apparu à des individus et à des groupes allant de 2 à 500 à la fois. Il est apparu à l'intérieur d'une chambre, il est apparu à l'extérieur. On l'a vu en Judée, on l'a vu en Galilée, avec une distance considérable entre les deux. On l'a vu en ville, on l'a vu à la campagne. Il a été vu de près, il a été vu de loin. On l'a vu avec rendez-vous, on l'a vu sans rendez-vous. On l'a vu sur une colline, on l'a vu sur les bords d'un lac, on l'a vu sur un chemin. On l'a vu assis, on l'a vu debout, on l'a vu en train de marcher. Et chaque fois en train de parler, et souvent en train de manger avec les gens. Il a paru toujours à des adultes, jamais des enfants, c'est-à-dire rien à voir avec des apparitions sur lesquelles sont bâties pas mal de religions et de croyances. Ici, c'est très différent. Donc les preuves sont là pour nous aider à surmonter les doutes. Mais ce qui est formidable ici, c'est que finalement, les personnes, les disciples, ils ne sont pas juste passés du doute à la connaissance ou du doute à la croyance, ils sont passés du doute à l'adoration. Et c'est ce qu'on voit, les femmes, elles s'approchèrent, elles l'adorèrent. Et puis verset 17, les autres, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Thomas, un qui doutait quand le Seigneur fournit les preuves, finalement, il ne s'intéresse plus aux preuves. Et on lui on ne dit jamais que vraiment il a touché, il a avancé sa main. Dès que Jésus l'a dit, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a quelque chose qui s'est passé pour les faire surmonter des doutes. Et c'est incroyable. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans l'évangile de Matthieu, Jésus, a 5 ou 6 fois, leur dit « Je vais mourir et puis je vais ressusciter 3 jours après ». Ça, vous le trouvez tout au long de l'évangile de Matthieu. Jésus enseigne clairement ses disciples « Je vais mourir et je vais ressusciter ». Il a dû le dire bien plus que 5 fois parce que les principaux sacrificateurs, à la fin du chapitre 27, eux, ils étaient bien au courant que c'est quelque chose qu'il enseignait. Il a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Donc Jésus l'a répété, l'a répété, l'a répété. Le jour, 3 jours après, il n'y en a aucun qui a dit « Tenez les gars, j'ai le souvenir qu'il a quand même dit qu'il allait ressusciter 3 jours après. Peut-être ça ne peut pas faire du mal à faire un tour au tombeau. » Aucun. Les femmes qui sont venues, ils venaient avec des aromates pour embaumer le corps. C'est-à-dire, parmi tous ses disciples, il n'y en a aucun qui a même eu l'idée de concevoir une résurrection. Je me dis, c'est fort. Si moi, pendant des années, je fais l'annonce tous les dimanches que je vais être parti pendant le mois de juillet, après je vais revenir. Même si vous n'écoutez pas toujours les annonces, je me dis que si je le dis tout le temps, un parmi vous dirait, si en ne me voyant plus le mois de juillet, ah tiens, il avait dit quelque chose comme ça. Pour les disciples, aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans leurs esprits, la notion de résurrection était inconcevable. Ils ont dû se dire, oui, il doit parler de peut-être la dernière résurrection. Un jour, peut-être, on va le retrouver au ciel. Peut-être c'est ça qu'il veut dire. Ou les Juifs avaient la notion d'une résurrection finale, un dernier jugement. Peut-être, oui, quand il parle de les 3 jours, ça doit être un peu symbolique. Et la résurrection aussi. Aucun ne pouvait concevoir que... Mais quand ils l'ont vu là, ressuscité comme ça, c'était... Voilà, c'était une nouvelle vision de la réalité. Jésus ressuscité, ce n'était pas juste dans la dernière résurrection, c'était Jésus refait à neuf, bien que ce soit toujours Jésus, il avait les marques sur ses mains, et c'est ça qu'ils ont vu, et quelque part ça a pu bouleverser leur conception de la réalité. Il y avait une nouveauté, avec une joie extraordinaire, c'est que, voilà, cette résurrection, c'est la preuve qu'on ne va jamais plus penser à la mort de la même manière. La résurrection, c'est la preuve que ce monde peut être, notre vie, notre monde va être en quelque sorte refait à neuf un jour. C'est matériel, c'est physique, c'est pas juste symbolique ou spirituel. Et c'est ce qu'ils ont vu. Et quelque part, ils ont rencontré une nouveauté si merveilleuse que les doutes commençaient à s'éteindre. Vous savez, toutes les autres religions nous donnent des instructions, des conseils, nous proposent un guide fondateur de religion qui va dire voilà ce qu'il faut faire pour aller vers Dieu, voilà ce qu'il faut tenter pour chercher Dieu. Mais la plupart des guides, des fondateurs, ils n'ont jamais prétendu être ce Dieu. Et souvent, ils n'ont même pas prétendu vraiment forcément réussir eux-mêmes. Souvent, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est « faites votre mieux, moi je fais mon mieux ». Je trouve fort Bouddha, par exemple, voilà son enseignement à ses disciples, « doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire ». Voilà. Et ses dernières paroles avant de mourir Bouddha, c'était « soyez persévérants et ne relâchez point vos efforts ». Le message de la Bible est très très différent. Et c'est ce matin où on peut vraiment le rappeler, le trouver avec la résurrection. Les religions disent Dieu est par là, il faut aller le chercher avec ses instructions, ses conseils, ses lois. L'évangile fonctionne autrement et dit Dieu est venu vers nous et Il est venu nous chercher et il a accompli le salut que nous ne pouvions pas faire. La Bible nous donne un salut déjà accompli, une victoire déjà acquise. C'est ça la résurrection. Les dernières paroles de Jésus, ce n'était pas « faites votre mieux », c'était « tout est accompli ». Et en ressuscitant, il a prouvé que tout ce qu'il a dit, et il a souvent précédé ces phrases « en vérité », rien à voir avec douter de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Il a dit « je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la vie ». Vous voyez, pour surmonter nos doutes, Dieu nous donne plus que des preuves historiques. Il faut déjà passer par là. Mais il nous donne plus que des preuves historiques. Il nous donne une personne, une nouvelle, une nouveauté. Cette personne qui est Dieu, qui est mort et qui est ressuscité. Cette personne qui s'est présentée comme la réalité ultime de l'univers, mais qui aussi s'est présentée comme notre frère. Ça, c'est la résurrection. J'aime bien quand il dit aux femmes, il dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. » C'est la première fois que Jésus parle de ses disciples comme ses frères, dans tout l'évangile de Matthieu, dans les évangiles. Mes frères, ils sont maintenant mes frères. Et quand on voit ça, quand on voit cette personne et son amour et son désir d'être notre frère, ce qu'il a fait pour nous, voilà, aucune autre vision du monde, aucune autre réalité mérite autant de croyance, de foi que ça. Quelque part, ça attire, ça appelle notre foi. On découvre une histoire qu'enfin, on n'aimerait pas douter. Une histoire qui, on aimerait tellement que ça soit vrai, et puis la résurrection le prouve. Et puis on peut vivre jour après jour dans cette assurance, ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, ça m'a aidé à comprendre quelque chose, c'est qu'à l'origine de tout péché, toute désobéissance, à l'origine de tout mauvais comportement, il y a quand même le doute, il y a un doute. Quand on ne veut pas obéir, c'est qu'il y a déjà eu un pas d'incrédulité. Il y a déjà eu un doute où on se pose la question, mais d'accord, la Bible me dit de faire ça, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Si Dieu existe, il ne me privera pas d'une telle ou telle chose. Et donc, on l'apprend nous-mêmes, souvent dans une désobéissance. On se dit, si Dieu voulait notre bien, notre liberté, il ne nous aurait pas imposé tel commandement, telle parole. C'est ainsi que tout a commencé, tout le mal. C'est le serpent qui a semé ce doute-là dans le cœur d'Ève. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment notre indépendance? Il ne doit pas vouloir notre indépendance, notre liberté, notre bonheur, notre sécurité. Donc il nous en prive. Et donc nous, on croit un peu ce mensonge, à la base un doute de la parole de Dieu, et on pense que, un peu comme les souverains sacrificateurs, c'est il faut la position sociale pour réussir sa vie. Ou on croit un peu comme les soldats romains, c'est l'argent qui va nous sauver. On peut avoir soif de pouvoir, soif d'argent comme les souverains sacrificateurs, comme les soldats romains. Parce que finalement, on a cru ce mensonge que Dieu lui-même, il ne veut pas notre bien, notre bonheur, notre sécurité. Mais ces doutes-là peuvent enfin être surmontés si vous pensez à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection est la preuve ultime que oui, Dieu nous aime. Jésus s'est privé de l'amour de Dieu, il s'est privé de la liberté, il s'est privé de tout pour que nous les ayons en abondance et que nous soyons assurés sans aucun doute de son amour pour nous. Pour que nous n'ayons aucun doute que l'histoire, que notre histoire, que notre vie aura une fin heureuse. Il n'a pas besoin de s'en occuper de nous-mêmes, de s'inquiéter nous-mêmes. Il nous a offert cette vision, cette espérance. Je termine avec il y a des paroles un peu connues, fameuses de Shakespeare dans Hamlet. C'est une déclaration d'amour. Douter que les étoiles ne soient de flammes, douter que le soleil n'accomplisse son tour, douter que la vérité soit menteuse, infâme, mais ne doutez jamais de mon amour.
C'est joli.
Effectivement. On veut croire que voilà, l'amour emporte sur tout, mais parfois l'appel ici c'est même douter du reste, douter que les étoiles ne soient de flammes, douter que le soleil n'accomplisse son tour, douter que la vérité soit menteuse infâme, mais douter jamais de mon amour. La chose avec nous, avec la résurrection de Jésus-Christ, pour la première fois, les chrétiens n'ont pas à choisir entre la vérité et l'amour, la beauté. En France, dans les films français notamment, on n'aime pas trop que ça finisse avec une fin heureuse parce qu'on dit que finalement ce n'est pas un reflet de la réalité. Alors, c'est Hollywood, on laisse Hollywood terminer tous les films de manière heureuse, mais nous, on est un peu plus matures, l'art est avancé, et donc il faut que la fin soit un peu macabre ou triste ou tordue parce que le constat, c'est que la réalité est ainsi. On ne peut pas avoir la beauté, l'amour, que tout finit bien, et la vérité, la réalité. Mais enfin, dans la résurrection de Jésus-Christ, vous pouvez la voir. Les preuves sont là, la vérité est là, mais derrière les preuves, il y a une beauté, il y a un amour que Dieu propose à chacun de nous ce matin. Nous terminons dans la prière.